Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à la littérature avec ma chère Olivia de Lamberterie, duel Arnaud Vivian de Regard et de Transfuge avec Frédéric Becbédé du Sud-Ouest et également du Figaro Magazine et avec Jean-Louis Hézine, représentant du Chasse-Marais, revue qui paraît tous les deux mois, c'est ça?
C'est ça, oui.
Voilà.
Avec un très bel article sur Yann Kefelec dans le dernier numéro.
C'est vrai que tu as que tu allais. Oui, c'est vrai que maintenant tu...
Remarquable.
Tu connais bien la mer, Frédéric. On parle ce soir des nouveaux romans de Delphine de Vigan et de Sandrine Colette, de l'autoportrait de Philippe Solers, des récits de Joyce Ormond et Leïla Slimani dans le courrier de la semaine. Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon a voulu casser sa radio après avoir entendu au masque le désingage de Ce matin-là de Gaël Josse aux éditions Noir sur Blanc, qui réussit pourtant dans un style poétique et pudique à nous faire toucher du doigt la détresse d'une femme d'aujourd'hui. Catherine Kölsch de Bourg-en-Bresse n'a pas attendu le roman d'Éric Fotorino pour découvrir Marina Abramovitch. C'était en 2017. Ça, je ne savais pas, dans La beauté des jours de Claudie Gallet chez Actes Sud. Je regrette qu'aucun de vos critiques ne l'ait mentionné. Paul Laria de Pau juge que Graham Swift, dont on évoquait ici le grand jeu chez Gallimard, est l'un des romanciers britanniques les plus originaux des trois dernières décennies et qu'il ne faut pas oublier son humour aérien omniprésent dans ce roman. Au contraire, pour Lucille Rochas de Paris, le grand jeu de Graham Swift est la quintessence de toutes les platitudes littéraires qu'on est en droit de s'épargner. Sinon, eh bien, ça c'est pour Olivia, notre confrère de la RTBF, Camille Deric, mais aussi Marie-Josée Séry-Mercier de Saint-André-des-Eaux, mais aussi Véronique Bossoreille de La Roche-sur-Yon ou encore Olivier Vaillant, d'autres, s'étonnent d'avoir entendu Olivia déclarer ici même que les bonbons Quality Street de son enfance n'existaient plus. Faux.
Enfin, une bonne nouvelle.
En cœur. Ils existent toujours, ils sont toujours aussi sucrés et toujours aussi addictifs. J'ai même reçu des lettres avec des photographies de ces boîtes achetées dans les grandes surfaces.
Mais personne ne m'en a envoyé, malheureusement.
Peut-être qu'on pourra en recevoir ici au Masque et la Plume. Enfin. Nos auditeurs se réjouissent du retour parmi nous de Jean-Louis Hézine. Quel bonheur, écrit Annick Guével de Bretagne, de retrouver son sens de la formule, cet inimitable Proust du post-it pour définir Philippe Delerme. Et mille fois bravo, s'exclame Roland Mancy pour le retour du forcément sublime cycliste Jean-Louis Hézine. David Châtenay pense avec Jean-Louis que la prune du Lot est en effet translucide.
Tout à fait.
J'ai grandi dans le Lot, nous dit cet auditeur, et j'en garde toujours une bouteille à San Francisco, d'où je vous écoute chaque semaine avec grand plaisir.
Non, on s'en sert de gel hydroalcoolique. Là.
Thomas Ducharne, qui habite Strasbourg et qui ne connaît rien à la mer, veut absolument s'abonner au Chasse-Marais. Grâce à toi. Enfin, ça c'est le plus important, notre confrère Guy Birenbaum, qui habite Trouville, nous écrit « Je me réjouis du retour du grand Hézine au Masque et la Plume, mais je l'entends évoquer le bac qui permet de traverser la Touque entre Trouville et Deauville. Selon Jean-Louis Hézine, il n'y aurait que 32 mètres entre les deux villes. Or, après avoir interrogé, nous dit Guy Birenbaum, le capitaine du bac, il y a un capitaine du bac, Emmanuel Guillet, il y aurait 220 mètres à marée haute. »
Ah oui, à Mario.
Merci de rétablir la vérité pour l'honneur du masque et du pays d'Auge. Alors, c'est 32 ou c'est
200... 32 à marée basse.
C'est pas une réponse, hein. Donc, tu ne choisis pas entre 32 mètres et 220 mètres.
Je sais pas, au moment où Henri Chéron a fait cette traversée, ministre de la Marine...
On va pas te raconter toute l'histoire de Chéron.
J'ignore, oui, effectivement, si... Non, mais je pense qu'il a raison.
Alors, ça reste la distance la plus courte entre deux villes par bac.
Oui, absolument.
Voilà. Hein, enfin, donc, en tout cas, tu vois que ton retour est salué.
Merci, Guy.
Au masque et la plume.
Oui. Hein, ah oui, c'est très agréable.
Allez, on commence avec Les enfants sont rois, le nouveau roman de Delphine de Vigan, désormais chez Gallimard. Il paraît au moment du 20e anniversaire, qui ne vous a pas échappé aux uns et aux autres, de l'iconique émission de télé-réalité Love Story, diffusée sur M6, et de sa non moins héroïne iconique, Loana. La Mélanie de Delphine de Vigan a justement voulu devenir aussi connue que Loana en participant à une émission de télé-réalité. Mais ce fut un fiasco. Elle est devenue mariée, mère de famille, et elle crée sur YouTube la chaîne Happy Récré, où elle met chaque jour en scène ses deux jeunes enfants qui ne demandaient pas, évidemment, à être transformés en influenceurs et où elle est suivie par des millions d'abonnés. Le roman donc souffre par la disparition de la fille de Mélanie, Kimi, 7 ans, lors d'une partie de cache-cache en bas de chez elle. Et c'est Clara, une policière de la brigade criminelle, où elle est procédurière, ce que je ne savais pas, ça, c'est-à-dire qu'elle récolte les indices sur les scènes de crime, qui enquête sur cette disparition. Bref, un roman polar sur les dérives des réseaux sociaux qui s'ouvre en 2001 lors de la finale du Loft et se termine en 2031 avec un grand mouvement qui milite pour la déconnexion. Et en épigraphe, Delphine de Vigan a placé cette phrase que j'adore, il faut dire, de Stephen King: nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat. Frédéric.
Alors, il y a maintenant au Masque et la Plume une controverse littéraire très intéressante.
Laquelle?
À chaque émission, sur la question des romans Netflix.
Ah oui.
Ça a été lancé par Nelly à propos de Hervé Le Tellier. Je n'étais pas d'accord sur ce livre-là, parce que j'étais très enthousiaste sur l'anomalie.
Nelly Caprielian, que nous saluons, qui vit l'essentiel de son temps pour l'instant à Londres, d'où son absence au Masque et la Plume.
Oui, mais elle a eu raison sur cet argument-là, l'argument consistant à dire que finalement, il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui tentent de rivaliser avec les séries télé et choisissent un sujet de société du moment, et ensuite plaque une histoire policière ou non sur un peu artificiellement sur ce sujet, qui, tout ça pour créer des débats à la télévision et puis en se préoccupant absolument pas du style. Alors il y a eu on a dit ça à propos de Sandro Veronesi, on l'a redit toi Arnaud à propos de Gaël Josse et de Tiffany Tavernier. Donc dans l'émission maintenant c'est un feuilleton, cette controverse, et j'ajoute ma pierre à l'édifice, parce que je pense vraiment que Delphine de Vigan, qui a eu le prix Renaudot en 2015 et qui avait fait un beau livre sur sa mère, Rien ne s'oppose à la nuit. Je suis sûr qu'elle a du talent, mais ça se voit pas dans Les enfants sont rois, et qui n'est qu'une enquête policière très très banale, avec des personnages stéréotypés, la fille qui veut être connue, la policière dont les parents sont un télo de gauche et puis qui par réaction devient flic, et cette espèce d'intrigue.
Tu trouves vraiment banal cette mère qui vend quasiment ses enfants, enfin qui les prostitue pour de l'argent en faisant des influenceurs.
Non, c'est un sujet qu'on trouve dans pas mal de livres en ce moment.
Ah, tu trouves toi?
Ah bon?
Éric Laurent a traité le sujet cette année, là, on en a parlé ici.
Oh, bah, c'était pas du tout la même chose.
Aurélien Bélanger sort un livre sur la télé-réalité.
Absolument. Oui.
Voilà, mais c'est pas à la limite ça, on a le droit. Ce que je veux dire, c'est que si on renonce à la forme, si on s'intéresse plus à l'écriture dans un roman, alors on est jugé que sur l'efficacité, sur l'enquête, en l'occurrence, dans ce livre. Et là, je suis désolé, on est plus proche de Enid Blyton que de Stephen King. C'est-à-dire qu'il y a, c'est plat, quoi. C'est totalement plat pour moi. Et c'est même très prévisible. Ce qui arrive, on va pas le dire.
Non, tu racontes pas.
Le fait, la surprise, ce qui est supposé être la surprise, c'est comment on résout le kidnapping. Et honnêtement, je l'ai vu venir depuis 50 pages. Donc là, il y a un vrai problème, c'est cette abdication littéraire de beaucoup d'écrivains. Je trouve que c'est très triste.
Alors Olivia, je précise que tu as fait la une duel il y a 10 jours avec Delphine de Vigan à propos de ce nouveau roman. Alors,
oui, absolument, et c'est important pour le L de mettre aussi des écrivaines en couverture. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Frédéric, parce que je trouve que c'est un roman au départ sociétal qui nous fait voir un monde dont moi, j'ignorais absolument tout. Alors peut-être que je suis une femme préhistorique, effectivement, je ne vais jamais sur YouTube, je ne vais pas sur Twitter, et donc j'ignorais totalement ce qu'elle nous raconte, c'est-à-dire ses enfants rois et le royaume dont ils sont les rois. J'ignorais totalement qu'aujourd'hui en France, il y avait des femmes, des mères souvent, parce que c'est beaucoup des femmes, qui filmaient en permanence leurs enfants. Moi, je trouve que c'est vertigineux ce qu'elle raconte.
Oui, c'est un sujet de journaliste. Enfin, c'est un sujet pour un documentaire sur Loana, tu vois.
Qu'elle incarne, et je suis pas du tout d'accord avec ton expression, elle plaque une histoire. Je trouve que justement son talent, c'est un talent de conteuse qui consiste à prendre à bras le corps ce sujet de société et à l'incarner auprès d'une femme et d'enfants. Donc ça, je trouve qu'elle le fait très bien. En plus, elle pousse le jeu encore plus loin, parce que la première question, c'est quelle est ce royaume dont les enfants sont rois. Et c'est un royaume régi uniquement par la consommation. Je trouve que c'est absolument terrible ce qu'elle raconte. Et après, elle transforme ce polar en un roman d'anticipation qui, tu as raison, est tout à fait sur le terrain de jeu de Hervé Le Tellier, où elle se pose la question: que vont devenir ces enfants qui aujourd'hui sont filmés 24 heures sur 24? Et le plus intéressant de ce livre, c'est cette dernière partie où elle décrit des adultes qui sont acharnés à décrire, à détruire.
Qui se passe en 2030.
En 2030,
voilà,
absolument.
On est dans la science-fiction.
On est dans la science-fiction.
L'anticipation.
Oui, plutôt l'anticipation.
Oui, oui, l'anticipation. Comment tu vas détruire ce passé numérique qui est le tien?
Oui, d'accord, mais tu me réponds absolument pas sur la forme.
Je trouve que la forme, elle est fluide, elle est simple, elle est très belle. Et en plus, ce qui correspond à l'ADN de Delphine de Vigan, c'est la distance avec laquelle elle raconte son histoire, qui n'est jamais dans le jugement. C'est pas un roman à thèse, c'est pas un roman pour dénoncer, c'est un roman pour raconter, et elle le fait avec beaucoup d'humanité, de sensibilité et de talent narratif et littéraire. C'est pas parce qu'on prend un sujet du téléphone sonne qu'on peut pas en faire une œuvre littéraire.
Arnaud.
Écoutez, ma mère l'a lu, elle l'a bien aimé.
Eh bien, qu'elle vienne à ta place.
Au début, elle était un peu perdue parce qu'elle avait jamais vu Le Loft. Donc, j'étais un peu obligé de lui raconter. Enfin, elle savait de quoi il s'agissait, mais c'est pas son type de programme. Mais il y a quelque chose qui fonctionne, qui est assez simple, hein. Les deux femmes. D'ailleurs, l'enquêtrice est très, à mon avis, copiée sur la Jodie Foster du Silence des agneaux. Une femme menue, etc. On voit qu'il y a, une modélisation là, qu'il y a eu une inspiration de la part de Delphine de Vigan. Donc l'opposition entre les deux femmes, il y a des choses. Pour la première fois, je trouve que Delphine de Vigan est un peu drôle parfois, lorsqu'elle raconte par exemple les parents de l'enquêtrice, donc qui sont, comme tu l'as dit Frédéric, de gauche et qui refusent la télévision, qui vont finir par en acheter une pour regarder Arrêt sur image. C'est effectivement assez drôle.
Et qui vont organiser une fête pour célébrer l'entrée de leur fille dans la police en se déguisant. C'est drôle aussi.
Je trouve que ce personnage-là est très réussi.
C'est un livre qui a beaucoup d'esprit. Et ce personnage-là est très réussi, autant que la Mélanie.
Est réussi. En revanche, celui de Mélanie est vraiment beaucoup plus caricatural. Il y a quelque chose de là qui, à mon avis, un petit peu...
On ne peut pas s'attacher à cette idiote, en fait. On ne peut absolument pas. Non. Je suis désolée.
Là, tout de suite, tu juges. C'est une femme de la classe moyenne qui a réussi à devenir millionnaire en filmant ses enfants.
Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, quand même, c'est la filiation qu'opère Delphine de Vigan entre la télé-réalité et les influenceurs. C'est-à-dire que c'est cette idée de la société du spectacle intime, en fait. Et comment on passe de l'un à l'autre.
Elle ne filme pas ses enfants, elle filme ses enfants en train d'acheter des chaussures ou d'acheter des vêtements. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Bien sûr. C'est dément ce qu'elle raconte. Il y a une petite... une vidéo qui fait fureur et qui est un truc qui existe. C'est le Cheese Challenge. Tu connaissais le Cheese Challenge, Frédéric? Est-ce que tu fais ça avec tes enfants?
Pas du tout.
Cela consiste à envoyer une tranche de fromage fondu sur le visage de ton bébé ou de ton enfant et de filmer sa réaction. Alors évidemment, ça fait rire. Ça fait rire.
Voilà, c'est vidéo gag, quoi, en fait.
C'est un monde qui existe, une sorte de monde souterrain qui existe. Et
oui, mais il existait déjà.
Qui est regardé par 20 millions de personnes. Moi, je trouve que ça mérite qu'on s'y intéresse.
Il existait déjà à la télévision, d'une certaine manière. Mais je suis quand même de l'avis de Frédéric, c'est-à-dire qu'on n'est pas exactement dans l'idée de la littérature. Il n'y a pas de la sublimation, on est quand même, c'est une histoire, on la lit, on trouve ça intéressant ou un peu captivant, bon. Mais enfin...
Alors qu'est-ce qu'on pense du Loft au Chasse-Marée?
Le Loft, je n'ai jamais vu, moi, donc déjà...
Mais tu as un appareil de télévision, enfin, on appelle
un appareil de télévision, oui.
Un téléviseur.
Oui, absolument, téléviseur, oui.
Avec plusieurs chaînes.
Mais je ne regarde pas ça.
Qu'est-ce qu'on pense du roman de Delphine de Vigan?
J'ai appris quand même des tas de choses, mais j'ai eu beaucoup de mal, je dois reconnaître. J'ai eu beaucoup de mal. C'est pas de la faute d'ailleurs de Delphine de Vigan, dont on connaît le talent et la technique au cordeau, comme on dirait dans un manuel de jardinage. Mais la difficulté, c'est pour moi, c'est d'entrer dans ce monde que je passe mon temps à fuir, en fait, tu vois. Donc ça a été une sorte de stage de rattrapage, mais très violent, quoi. Je me suis dit, on en est là, dis donc. Alors j'ai appris des tas de choses sur, comment elle appelle ça, l'unboxing. L'unboxing.
Oui, c'est les gens qui se filment pour en train d'ouvrir un cadeau.
En train d'ouvrir un paquet, et tu dois, tu publies la vidéo. C'est-à-dire, en fait, j'ai vu, c'est un roman sur la mort de l'intime, en fait. Parce que ça ne va pas s'arrêter là, si je comprends bien.
J'ai l'impression que tu es en train de découvrir les réseaux sociaux.
Ah non, je connais leur
il est sur Twitter.
Méfait,
oui, sur Twitter, Jean-Louis.
Oui, c'est un... Enfin bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais en fait, je ne l'utilise pas non plus.
Oui, non mais on voudrait juste avoir ton opinion sur le livre. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, sur un plan romanesque, j'ai essayé de m'accrocher, effectivement, à des références qui n'existent pas. Bon, je pourrais vous dire que la rencontre de Mélanie et de Clara m'a fait penser à la rencontre de Bouvard et Pécuchet sur le boulevard Bourdon. Et se cherchant un point commun et découvrant qu'ils ont écrit chacun leur nom au fond de leur chapeau. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, mais cette référence s'en va très très vite. Et puis après, quand on cherche des plaisirs littéraires, on trouve juste celui de dénoncer un usage fallacieux d'une consonne fricative à la page 184. Mélanie se retenait d'hurler en se roulant par terre. Non, je pense que le H est aspiré, et elle se retenait de hurler, normalement. Vous voyez, il y a quand même un laisser-aller. Alors, j'ai tout à fait conscience...
Alors, ce sera ton mot de la
Olivia,
fin, qu'on parle à
j'ai tout
livres,
à fait conscience de la goujaterie de ma remarque. C'est comme faire remarquer à une jolie femme...
Oui, c'est un peu grammaire nazi.
Qu'elle a un morceau de persil entre les dents, tu vois, c'est affreux. Mais... j'étais obligé de m'accrocher à des choses que je peux connaître.
Mais au moins, tu as fait un effort. Et Les enfants sont rois, c'est Delphine de Vigan. Et c'est chez Gallimard. On a encore 4 livres à évoquer. Le parfum des fleurs la nuit, un texte bref, chez Stock, que Leïla Slimani publie entre 2 épisodes de son cycle romanesque, familial, marocain, entamé l'an passé, vous le savez, avec Le Pays des Autres, dont on a parlé ici. Fidèle au titre de la collection Ma nuit au musée, il relate précisément la nuit d'avril 2019 qu'a passé Leïla Slimani à la pointe de la douane à Venise, au milieu des œuvres d'art contemporain, enfin que dis-je, des installations de la Fondation Pinault qui ne sont pas vraiment son genre. J'ai eu le sentiment, écrit-elle, d'être avalée par une baleine. Mais c'est l'occasion rêvée pour Leïla, qui veut dire la nuit, je ne le savais pas, en arabe, de s'interroger sur l'enfermement, y compris celui de son père, banquier, autrefois emprisonné après un scandale politico-financier et finalement lavé de tout soupçon, mais après sa mort en 2004. Cette nuit-là, donc, elle rassemble ses souvenirs d'enfance à Rabat. Elle convoque ses fantômes du passé, dont d'ailleurs Marilyn Monroe. Et elle est seule à Venise où elle écrit que la littérature ne sert pas à restituer le réel, mais à combler des vides et des lacunes. Jean-Louis, ce parfum des fleurs la nuit, de Leïla Slimani.
Oui, alors, c'est le récit d'une panne. Non pas une panne,
comment ça, d'une panne
sexuelle, mais une panne textuelle. Je veux dire, c'est le livre.
Non, c'est un livre de commande, c'est pas une.
Ah ben non, mais d'une commande dont elle se demande de la première à la dernière page comment elle va se débrouiller pour l'exécuter. Voilà, c'est ça. Et c'est en quoi je dis c'est le récit d'une panne. Elle fait là le détail de tout ce qui retient un écrivain d'écrire, de développer. De continuer. Voilà. Écrire un livre, c'est la mer à boire, quoi, en fait. Et là, c'est cette mer à boire qu'elle met en scène, qu'elle... Voilà. Alors, évidemment, attention, parce que de deux choses l'une. Le récit de cette panne peut être réussi, mais il peut aussi être raté, quoi. Suspense.
Ton verdict.
Suspense. J'ai douté, d'ailleurs, jusqu'à l'escalope milanaise de la page 43.
Ah oui.
L'escalope milanaise qu'elle ne digère pas, je veux dire. Et là, je me suis dit, ah, tout de même. Et
il y a une phrase, notamment, qu'on peut citer. Cette escalope milanaise était vraiment une mauvaise idée.
Voilà, était vraiment une mauvaise idée. Et je pense qu'il ne faut pas consommer une escalope milanaise quand on doit exécuter des pages sur un musée. Non, parce que c'est lourd, etc. Bon. Non, mais je veux dire, c'est
une
erreur.
On ne sait toujours pas ce que tu en penses du livre. Hein.
Ah, mais attends, ça vient.
Non, mais. Sauf que.
Et alors, ce qui est très amusant.
Mon rôle est de distribuer la parole, tu sais.
Oui. Alors, ça finit par être l'autoportrait d'une bonne à rien, en gros, quoi, qui ne digère pas l'escalope milanaise, qui n'a rien à faire de l'art ni des musées, qui s'ennuie à mourir, qui se demande continuellement et tout
mais
le temps ce qu'elle fait là, ce
qu'elle fait là.
Mais elle le fait. Non, mais elle le fait avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. sur soi, beaucoup de modestie, beaucoup de références aussi culturelles. Hein, je veux dire qu'elle a emmené avec elle quand même quelques anthologies sur Venise qui sont bien bien nourries. Et j'ai trouvé qu'à la fin, j'étais plutôt assez convaincu. C'est le plus beau ratage que j'ai lu récemment dans le... Voilà.
Comprenne qui pourra, Arnaud.
C'est un ratage réussi.
Voilà.
Elle le dit elle-même. Elle dit « Dans quel piège je suis encore allé me fourrer ? Pourquoi ai-je accepté d'écrire ce texte alors que je sais intimement que l'écriture doit répondre à une nécessité, à une obsession intime, à une urgence intérieure ?» Donc elle est tombée dans un piège. Et alors, la manière qu'elle a de s'en sortir, c'est de décrire ce piège, c'est de décrire l'enfermement dans lequel elle est. Vous imaginez bien comment cette collection qui consiste à dire à un écrivain « Tu vas passer la nuit dans un musée, puis tu vas nous raconter. » C'est totalement frelaté comme projet, comme idée. On voit bien, d'ailleurs, l'espèce d'échange produit entre la littérature et l'art là, qui est en train de s'opérer et qui n'a aucun, à mon avis, aucun intérêt. Elle a accepté pour on ne sait quelle raison. Et en plus, elle a un petit problème, je pense qu'elle ne dit pas, mais enfin quand même que nous savons, nous, c'est que la dernière fois qu'elle a été enfermée, c'est en l'occurrence confinée, elle a fait un journal intime dans Le Monde qui, vraiment, l'a rendue absolument ridicule. Donc elle est face à cette contradiction. Et donc elle doit faire un texte et je trouve qu'elle s'en sort absolument bien. C'est qu'elle elle décrit le piège, elle décrit ce que c'est que l'emprisonnement donc de son père, mais aussi son propre emprisonnement. Alors à la fois dans le fait qu'elle est franco-marocaine, dans sa double nationalité, dans le fait qu'elle est écrivaine, qu'elle doit s'enfermer pour écrire alors qu'elle est mère de famille, qu'elle a des obligations et qu'elle doit dire non à tout pour rester enfermée pendant des semaines pour pouvoir terminer sa saga. Donc elle raconte tout ça avec une honnêteté, je trouve. Oui. Parfois une drôlerie aussi qui est là, qui est très présente. Le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'elle n'arrête pas, et je pense qu'elle a tort et qu'elle devrait arrêter immédiatement, de toujours vouloir se justifier dans sa qualité d'écrivain. De dire, je suis un écrivain parce que... Et donc, c'est bon, Leïla Slimani est écrivain, elle a eu le prix Goncourt, elle n'a pas besoin de se justifier à chaque ligne sur sa qualité d'écrivain. Mais à part ça, moi je trouve que ce livre-là est une manière joyeuse de se sortir d'un piège.
Olivia ?
Peut-être le fait-elle parce qu'elle est souvent l'objet d'attaques injustifiées.
Non, elle est au moment effectivement du journal de confinement.
Oui, bien sûr,
de mars dernier,
mais pas seulement. Leïla Slimani, par son statut aujourd'hui, est une femme qui est particulièrement attaquée. Et moi, je trouve que ce texte-là est son meilleur texte. C'est un texte dans lequel, pour la première fois, elle fend l'armure et, au travers de la dialectique imposée par le projet, celle de l'enfermement et du rapport entre dedans et dehors. Elle raconte l'histoire de son affranchissement. Comment elle était une petite fille condamnée à la bienséance, à la convenance, à, comme elle le dit très bien, rester à sa place. Et comment, depuis l'enfance, elle a un goût pour la liberté, la sauvagerie, la nuit. Et comment elle a réussi à faire cet affranchissement. Et ce qu'elle dit, et je trouve très osé, elle dit, c'est une pensée un peu triste et un peu honteuse, elle explique qu'elle a pu devenir écrivaine, et l'écrivaine est la femme libre qu'elle est aujourd'hui, grâce à la mort de son père. Il y a des pages qui sont quand même extrêmement gonflée, extrêmement audacieuse, où elle dit que c'est la mort de son père qui l'a autorisée à être écrivaine et à être pas du tout écrivain comme beaucoup de gens pensent qu'il faut l'être, c'est-à-dire dans la consolation, dans la résilience, mais au contraire, une écrivaine qui raconte les silences et qui gratte ses plaies. Moi, c'est un livre qui m'a fait penser beaucoup à des textes de Gisèle Halimi, où elle racontait justement ce que c'était que d'être une petite fille. Et en fait, quand on est une petite fille, ça veut dire qu'on a le droit de rien faire. Et quand on grandit, on vous dit que tout est dangereux, que vous allez sans cesse tomber. Et par ce biais-là, c'est un texte aussi très universel et très fort sur ce que c'est que d'être une femme libre aujourd'hui.
Frédéric,
moi, j'adore ce livre.
À propos du livre de Léa,
moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai même écrit que c'était son meilleur livre, comme toi.
Il faut dire que le premier volume de la trilogie marocaine a été prêté à beaucoup de débats.
Ah bah carrément, c'est-à-dire que justement, j'allais le dire, c'est son meilleur livre parce qu'on partait de très bas quand même.
Je pense que vous, les garçons, excusez-moi, non, je veux pas faire la rabat-joie, mais vous, les garçons, là, je suis la seule fille aujourd'hui, c'est un bonheur.
Donc on est obligé
vous
de dire du bien.
Vous avez un problème avec toutes ces écrivaines qui ont énormément de succès et que vous toisez quand même toujours du haut de votre superbe d'écrivain mâle blanc.
Non, pas du tout. Écoute, Le pays des autres est le roman le plus académique, le plus académique et poussiéreux que j'ai lu depuis très très longtemps. Non, mais franchement.
Elle avoue ne pas savoir faire de vélo, je suis prêt à lui. Leïla, si vous m'entendez.
Moi non plus, tu m'apprendras.
On s'y met un lundi, le mercredi, vrai, on enlève les stabilisateurs,
vrai,
hein, pas de problème.
Cette trilogie a provoqué un vrai débat littéraire.
Non, mais c'était.
Je pense pas que ça soit non plus.
En fait, je vais vous dire, moi, ce que j'ai ressenti en lisant ce petit livre où elle est enfermée à Venise dans la Fondation Pinault, c'est que, pour la première fois, cet écrivain officiel, qui est quand même plénipotentiaire d'Emmanuel Macron, chargé de la francophonie,
Quel est le rapport avec le texte là ?
Qu'elle en avait marre de ce statut, et ça c'est très agréable, c'est qu'elle retrouve une légèreté, une liberté dans ce livre, parce que tout d'un coup...
On sent la petite punkette là,
elle
a envie,
la Fayette, ministre de la Culture, on lui a proposé d'être juré au Goncourt aussi, et tout ça, elle a refusé, et là, pour la première fois, moi j'ai lu tous ses livres, là ce qu'elle veut c'est simplement fumer des clopes, pieds nus, elle en a rien à foutre des œuvres d'art de Pinault. Elle en parle à peine dans le livre, tellement c'est moche, elle s'en fout complètement. Et tout ce qu'elle dit, c'est... Elle raconte, par contre, ses virées nocturnes dans les bordels de Rabat. Elle raconte des choses terribles aussi, une agression sexuelle dont elle a été victime dans le RER. Et tout ça, elle confie tout ça avec une liberté, une sincérité. Et c'est la première fois. C'est comme si, tout d'un coup, Leïla Slimani était née, était enfin devenue écrivain, et je le mets au masculin justement par féminisme.
Très bien. Dans le jardin de l'ocre, son premier roman, c'était un livre d'une extrême liberté.
Le parfum des fleurs la nuit, c'est chez Stock. Et c'est signé Leïla Slimani à la folie chez Flammarion. C'est le récit documentaire et néanmoins littéraire de Joyce Sorman. On se souvient d'ailleurs de son formidable livre qui s'appelait Paris, gare du Nord. Gare qu'elle avait vraiment habitée, si j'ose dire, pour la raconter de l'intérieur. Cette fois, elle a passé pendant un an tous ses mercredis dans le pavillon 4B d'un hôpital psychiatrique. En fait, c'est le condensé de deux unités psy, afin de recueillir les paroles des fous et de leurs soignants. Parmi ceux qu'on appelle fous, il y a Franck, qui se prend pour un loup-garou et qui voudrait s'évader sur le dos d'un orang-outan. Il y a Youssef, qui pense être le soldat inconnu ou alors un agent de la DGSE. Ou encore le doyen, moi qui m'émeut terriblement, Robert, qui est hospitalisé depuis 35 ans. Et il y a, planant de bout en bout, cette odeur de collectivité et de macération, je cite, de légumes bouillis et de détergents, de sauces refroidies et d'inquiétude. Et à la toute fin du livre de Joyce Sorman, il y a une psychologue, Danielle, qui a vraiment le mot de la fin. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas en psychiatrie ? Parce que le protocole, c'est la globalisation, le contraire du singulier. Dans un protocole, on ne soigne pas un fou, mais les fous. Olivia.
Pour moi, ce livre est génial. Il est génial d'un point de vue littéraire, parce que je trouve qu'elle a la juste distance pour raconter. C'est une femme qui, avec une humilité absolument incroyable, sans jamais se pousser du col et dire « regardez ce que je suis en train de faire », elle regarde, elle écoute et elle raconte. Et elle le fait vraiment, je trouve.
Dans des petits chapitres, c'est très très séquencé.
Très séquencé.
Très bien rythmé.
Avec des portraits absolument admirables, aussi bien d'ailleurs de fous que de soignants.
Oui.
Et au travers ça, on voit d'ailleurs très bien une sorte d'évolution de la folie, comment avant les gens, en fait, avaient des pathologies génétiques identifiables, et comment aujourd'hui, ce sont des fous non identifiés. Comment on peut les soigner ou pas ? Et cela donne lieu à des portraits, mais absolument extraordinaires. Moi, je dois dire que mon préféré, c'est le mélancolique, c'est Arthur. Oui. Où on découvre d'ailleurs que la mélancolie est sans doute plus grave que toutes les psychoses et toutes les schizophrénies. C'est un homme qui dit « je voudrais me détruire, mais je ne peux même pas me détruire parce que je n'existe pas ». Et c'est là où je trouve qu'elle est une grande écrivain ou écrivaine, peu importe, parce qu'elle assiste à un entretien entre un soignant et Arthur. Et tout d'un coup, à cet Arthur qui explique qu'il est un sac de plâtre, qu'il s'émiette, qu'il s'effrite, on lui parle de projets, on lui dit « il faut finaliser vos projets ». Et là, tout d'un coup, en tant qu'auteur, elle intervient et elle dit « j'ai eu l'impression que ces mots « finaliser projet » étaient comme une insulte ou comme si on lui tirait une balle dans la tête ». C'est vraiment très très fort. Et le portrait d'Adrienne, la femme de service, qui dit « Moi, j'aime les fous. Et j'aime les fous parce que je sais leur donner la joie de vivre. » Adrienne, elle est exceptionnelle.
Et Robert, tu as
oublié. Et Robert, oublié, non mais Robert.
Il sait qu'il ne sortira plus jamais.
C'est vraiment une sorte de voyage chez les malheureux du monde dont tout le monde se fout.
Arnaud.
Depuis septembre dernier, j'ai passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique, je veux dire dans les livres, hein, parce que j'y suis allé avec Marius Geoffrey, à Sainte-Anne. Ouais. C'était le premier livre du fils de Régis Geoffrey. J'y suis allé évidemment avec Emmanuel Carrère quand même, à Sainte-Anne aussi. J'y suis allé avec
Électrochoc.
Un premier roman qui est sorti en septembre de Christophe Perruchat, qui s'appelle Sept gingembre, dont une grande partie se passait aussi à Sainte-Anne. Donc, autant vous dire que je n'avais pas trop envie de retourner à l'hôpital psychiatrique, ça au bout d'un moment. Donc, j'y suis allé avec Jacques Sormand, et je dois dire que, d'abord, je ne suis pas du tout sensible à l'aspect littéraire dont vous parlez. Je pense que ça ressemble quand même plutôt à du journalisme, mais un journalisme très spécial, un journaliste qui n'en serait pas vraiment, parce que, finalement, elle fusionne, on ne sait pas exactement où ça se passe. On ne sait pas pourquoi elle fait ce livre. Jamais elle nous dit pourquoi elle a décidé d'aller à l'hôpital psychiatrique, comme si ça tombait sous le sens. Mais du coup, le pacte de lecture...
L'avantage, c'est qu'elle ne se met pas en avant, comme d'autres.
Bah oui, bien sûr, c'est ça qui est beau. Bon, elle fait un témoignage de ce qu'elle a vu.
Elle dit quand même « je » assez souvent.
C'est pour ça que ce n'est pas du journalisme.
Non, justement.
Disons qu'elle ne s'avantage pas.
Du coup, on ne sait pas exactement. Parce que ce n'est pas du journalisme. Je suis désolé, ce n'est pas non plus de la littérature. C'est quand même plus un livre pour le téléphone sonne que pour le masque et la plume, à mon avis.
Non, mais comment tu peux dire ça ?
Si on veut faire un débat sur l'hôpital psychiatrique, oui, c'est intéressant.
Mais c'est très proche de l'écriture
de... Et en même temps,
Arnaud, c'est très proche de la Gare du Nord, de son livre sur la Gare du Nord.
Je ne l'ai pas lu, mais je...
Ah, tu ne l'as pas lu ?
Non, je n'ai pas lu le livre sur la Gare du Nord.
C'est proche de Florence Aubenas. C'est une enquête.
Non, à mon avis, non, pas du tout. Parce que le livre de Florence Aubenas, il raconte une histoire, un fait divers, de A jusqu'à Z. Il y a quand même...
C'est l'immersion.
Il y a l'idée de décrire un paysage, si on peut dire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. On voit qu'elle a fusionné deux endroits. Ça laisse un peu perplexe. Elle change les noms. Ben évidemment, on fait ça aussi dans le journalisme. Mais là, on ne comprend pas la finalité du projet. Évidemment, on apprend que l'hôpital manque de moyens. Mais enfin, c'est un truc que j'entends tous les jours à la radio et à la télévision. Mais vraiment, depuis un an au moins.
Sauf que là, c'est incarné auprès des personnages. Ce qu'elle fait, c'est très clair. Elle n'a pas besoin d'expliquer. Elle fait un portrait de la folie aujourd'hui.
On a l'impression qu'elle n'a aucun référent. Elle parle une fois de la Borde, mais visiblement elle ne connaît pas grand-chose de l'antipsychiatrie. C'est à se demander si elle a lu Michel Foucault.
Ah oh, bah si, on voit bien que c'est un livre qui honore l'histoire de la folie de Michel Foucault. Alors là, je ne te comprends pas.
Ah non, non.
Mais tu as un problème avec le sujet des livres, comme pour Delphine de Vigan, comme si le sujet des livres phagocytait la littérature. C'est très
clairement, c'est un livre sur l'hôpital psychiatrique. Là, on peut pas tourner autour du pot, on va pas dire, il n'y a pas de sujet.
Je suis pas du tout d'accord avec Arnaud, même si je respecte son avis. Je pense que là...
Moi aussi, évidemment que je respecte Arnaud Vignan.
Non, je pense que là, on a vraiment affaire à un travail littéraire. On voit que c'est un écrivain. Elle a sa manière de regarder, de retranscrire, de choisir les mots. C'est de la poésie brute. C'est des petits détails. Quand elle arrive dans le pavillon 4B, un pied qui dépasse d'une porte. L'odeur, ça sent la sauce madère. Elle montre comment BFM TV rend psychotique. Donc on met pas BFM TV, on met plutôt des clips vidéo. C'est la façon détaillée d'observer cette horreur climatisée, en fait. Les mots sont choisis. Par exemple, elle parle des potomanes, c'est les fous qui boivent beaucoup d'eau pour diluer les médocs. Voilà, pour qu'ils aient moins d'effets. Elle raconte les chambres d'isolement, la sismographie, c'est le mot pour ne pas dire électrochoc. Le pyjama en papier qui empêche de se suicider. Ouais. Moi, tout ça, j'ai trouvé, c'était extraordinaire. C'est vraiment un vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais aujourd'hui, c'est de la non-fiction.
Je le rappelle quand même, où jamais la psychiatrie n'a eu autant de clients que depuis le début
du
Covid.
Mais bien sûr, l'HP, aujourd'hui, c'est le décor contemporain.
Mais vous voyez comment Emmanuel Carrère ne raconte pas ça du tout de la même façon, hein, par exemple.
Mais c'est différent. Il raconte sa propre hospitalisation, Carrère. C'est autre chose.
C'est intéressant de voir qu'il y a quand même d'autres...
Il n'est pas là comme observateur, il est là comme patient.
Question des électrochocs qu'il a subi. Donc, il n'y a pas du tout ce discours-là. Je suis un peu gêné parce que c'est quand même une approche unilatérale que celle de Jacques Sormand. Elle raconte ce qu'elle voit, mais.
Oui, mais c'est vraiment comme une greffière qui est là au cœur.
Elle absorbe les.
Exactement. Et en plus, elle n'est pas unilatérale puisqu'elle donne la parole à plusieurs soignants qui ont des visions totalement différentes.
Non, moi, j'ai beaucoup aimé.
Jean-Louis.
Alors, dire que j'ai aimé, ça dépend comment on l'entend. Moi, c'est une lecture qui oblige à des pauses répétées et de plus en plus fréquentes pour reprendre souffle, pour respirer. Un peu comme l'épreuve d'effort chez le cardiologue. Tu vois, t'es obligé de t'arrêter. Entre celui qui éventre les chiens, celui qui écrase les hérissons entre ses paumes, les paumes de ses mains, t'es franchement obligé. Enfin, moi, ce qui m'a paru, c'est qu'il est pas raisonnable de se laisser aller à la folie. mais c'est pas du tout le genre de folie qui est traité là, parce que il y a une folie qui fait sens quand il y a du dépassement, de la transcendance, quand tu fais basculer toute une logique. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est si j'ose dire de la folie brute. Enfin, cela dit, j'ai trouvé un petit détail qui est un bien fondé, j'ai trouvé, de notre modeste activité critique. Il y a une malade qui dit avoir été folle de lecture, et notamment de Pessoa et d'Hemingway. Et puis, dans les troubles où elle s'est laissée glisser, elle ne lit plus que Guillaume Musso, Marc Lévy et Paulo Coelho. Donc, je me suis dit que ça confirmait en tout cas vraiment de manière abrupte et objective l'hypothèse que nous avons tous, qui est qu'il y a des livres qui sont des cochonneries toxiques pour la santé, quoi.
C'est donc À la folie, c'est chez Flammarion et c'est signé Joy Sormand. Agent secret, le livre en forme d'autoportrait que publie Philippe Joyot, alias Solers, au Mercure de France, dans la collection 13 et portraits, vous savez, où a paru le livre de Chantal Thomas, De sable et de neige, dont on a dit tant de bien ici, il y a quelques semaines. La première phrase du livre de Solers, eh ben, elle va en surprendre plus d'un. Contrairement aux apparences, je suis plutôt un homme sauvage. Fleurs, papillons, arbres, îles. Ma vie est dans les marais, les vignes, les vagues, trois petits points. La suite est le récit, surprenant lui aussi tellement il est clair, linéaire, de sa vie, son enfance bordelaise bien sûr, qu'on connaît, ses études à Paris, la publication de son premier roman, Une curieuse solitude, la naissance de Tel quel, sa rencontre avec sa grande amoureuse Dominique Rollin, la Chine de Mao, la bénédiction du pape Jean-Paul II, il y a plusieurs lignes sur ce moment cardinal, si j'ose dire, de sa vie, l'amitié de Barthes, Venise, l'île de Ré, ce qu'il appelle sa mauvaise réputation, et même quelques pages qui m'ont beaucoup touché, c'est très court, sur son fils David, qu'il appelle cet innocent qu'il aime, avec d'ailleurs quelques photos qui m'ont beaucoup ému. Avouez en tout cas que pour un agent secret, il est quand même très loquace, Frédéric.
Moi, je dois avouer que j'avais renoncé à Philippe Solers, j'avais l'impression que c'était terminé. Les cinq derniers romans, c'était des commentaires de l'actualité.
Il en sort un qui s'appelle Légende.
Oui, continue de faire un peu ça.
Simultanément chez Gallimard.
Continue de faire un peu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il commente l'évolution du monde en la regardant à la télévision. Bon. Et là, vraiment, je retrouve un écrivain. Alors là, tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission sur le fait que ce qui compte, c'est l'écriture, c'est le style, c'est la forme. Là, c'est absolument splendide.
Et en même temps, très simple, tu as remarqué?
Très, très, très simple.
Il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas
non.
de
Non, mais il y a toujours, il y a le côté Montaigne, c'est-à-dire à Sceaux et à Gambade. Il saute du coq à l'âne brillamment. Il y a aussi, donc, le côté virevoltant, mais aussi le côté très net. Comme Sartre dans Les mots, finalement, quand il parle de sa famille, il y a une simplicité. Par exemple, il y a cette trilogie « Amour, poésie, frivolité irréductible ». Alors là, évidemment, je signe tout de suite. Cette enfance très étrange, complètement double, avec ses deux frères qui épousent deux sœurs et qui habitent dans deux maisons mitoyennes, ce qui explique pourquoi il est double.
Plus l'usine derrière,
mais oui,
la fabrique.
La fabrique
ils ont hérité.
Qui va fermer. Il s'appelle Solers et aussi Joyot. Il aime Dominique Rollin et Julia Kristeva. Tout est double, sauf David, qui est unique et qui est au centre. C'est une déclaration d'amour vraiment inouïe. Et je trouve que, voilà, je regrette parce qu'on s'est beaucoup moqué de Solers, et moi aussi, et on avait oublié son importance.
Et il faut ajouter qu'il y a beaucoup de photos, comme toujours dans la collection 13 et portraits, qui ajoutent évidemment à...
Très jolie photo de
notamment de sa mère.
Oui, et aussi de la...
Et puis
de,
une photo
de
avec la... Dominique Rollin, où il rit, qui est une merveille.
Et la nounou espagnole, très très belle.
Jean-Louis.
Je partage ce que vient de dire Frédéric. Moi, il commence vraiment... C'est le dernier des Mohicans, quoi. Et il commence à m'émouvoir singulièrement. J'ai adoré. Moi, j'ai un côté... je suis fan de la vie littéraire. Alors, tous les détails qu'il peut donner, ses soirées avec Jacques Lacan ou avec Roland Barthes, c'est absolument prodigieux. Il y a des scènes que j'adore, comme par exemple quand il met à la poubelle un livre d'Elsa Triolet que Elsa Triolet lui a dédicacé en disant à Philippe Solers maternellement. J'ai qu'une mère, c'est pas toi.
C'est pas très tendre pour le couple d'ailleurs.
Non, il y a d'ailleurs une vacherie. Il y a une vacherie sur Aragon que j'ai du mal à lui passer quand il dit Aragon est un admirable écrivain, c'est tout. Ça veut dire qu'il y aurait autre chose d'important pour quand on écrit que d'être un admirable écrivain.
Et c'est assez ingrat de sa part parce que je rappelle que Mauriac et Aragon sont les deux parrains qui ont lancé Philippe Solers.
C'est eux qui l'ont effectivement lancé. Mais on voit vraiment.
Il cite l'article de Mauriac.
Oui, il cite l'article de Mauriac.
Intégralement.
Intégralement, rien passer. C'est magnifique. Mais en même temps, c'est absolument magnifique et bouleversant, je trouve. Oui.
Olivia.
Moi, j'ai l'impression que plus qu'un agent secret, c'est un agent double, Philippe Solers.
Ah ben voilà.
Il y a une partie que j'adore. Moi, j'aime l'homme, j'aime tout ce qu'il raconte de Dominique Rollin, j'aime le fils qui appelle sa mère la magicienne, j'aime le père. Il y a une phrase dans le petit chapitre sur son fils David, absolument somptueuse, où à la naissance de son fils, où il dit que c'est vraiment une joie extraordinaire, il dit « J'ai senti pour la première fois que j'étais mort ». Je trouve que cette phrase est sublime. Le portrait qu'il fait de Barthes est très très beau, il raconte ses plissements des yeux, il raconte comment à la mort de sa mère, il pouvait pas dire le mot « deuil », mais qu'il préférait le mot « chagrin ». Je trouve qu'il y a dans ce livre une sorte de philosophie de la vie, à toujours préférer le bonheur, que j'adore. Et puis parfois, il y a toujours... Tout d'un coup, le retour d'une sorte de Solers qui veut rappeler qu'il est le grand écrivain Philippe Solers. Alors moi, je préfère Leïla Slimani qui se justifie plutôt que tout d'un coup Solers qui nous balance les trois pages de Mauriac à sa gloire. Mais pourquoi on n'a pas besoin que Solers nous rappelle qu'il est un grand écrivain, bon Dieu? Ou alors tout d'un coup, hop, il y a un paragraphe, le puritanisme de l'époque, et tout d'un coup il prend Woody Allen et Polanski qui met dans le même panier alors que ça n'a rien à voir pour expliquer que les filles sont folles de vouloir être contre eux. Alors que vraiment, pour moi, Solers a été le plus grand commentateur de l'époque.
Oui.
C'était le Welbeck d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, il avait la parole juste et intelligente sur les premiers voiles, surtout. Et tout d'un coup, il se sabote. Donc moi, en fait, je crois que j'aime Joyau et j'aime pas Solers.
Arnaud.
Il y a quelque chose de très très beau, c'est que vous avez un écrivain au soir de sa vie, 84 ans quand même, qui apparaît soudainement comme un magicien qui vient, une espèce de Prospero qui vient vous expliquer ses trucs et qui vient vous dire finalement que le truc c'est qu'il n'y avait pas de truc, que tout était vrai. On a pu penser parfois...
Même le titre « Agent secret » n'a précisément plus aucun sens, puisqu'il raconte tout, il ne se cache pas.
Voilà. Et on a eu ce sentiment, on commençait à avoir ce sentiment quand on pouvait penser qu'il était mythomane, quand on lisait ses romans. On a commencé à avoir ce sentiment avec la correspondance, l'édition de la correspondance avec Dominique Rollin,
qui est magnifique.
Qui est vraiment une des plus grandes histoires
d'amour. Le dernier volume, qui sont les lettres de Dominique Rollin à Solers,
beau.
Que j'ai conseillé ici, est absolument magnifique.
Tellement
magnifique.
Beau. Voilà, donc, et concernant les femmes et les avis à l'emporte-pièce parfois qu'ils semblent avoir sur les sujets d'actualité, rappelons quand même que c'est le mari de Julia Kristeva qui est quand même la philosophe et la théoricienne du genre. Je veux dire, il n'y aurait pas Judith Butler sans Julia Kristeva. Et c'est quand même le mari de Julia Kristeva. Tout le monde semble oublier cet aspect de la question. Quand on dit, mais ce qu'il raconte sur les femmes est obscène.
Mais d'ailleurs, c'est un peu court, ce qu'il a comme justification quand il dit « Bah oui, j'ai eu deux femmes, bah pourquoi est-ce qu'on n'aurait qu'une seule femme ?»
Bon. Oui, mais il ne croit pas à la fidélité sexuelle, c'est ce qu'il dit.
Oui, voilà, mais enfin là, c'est encore autre chose.
C'est un refoulement et qu'il n'en veut pas. La dernière chose qu'il faut dire, c'est que voilà quelqu'un qui écrit depuis 60 ans et c'est vraiment une traversée de la langue française. Et ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, au soir de sa vie, il est totalement dans l'épure. C'est ce que tu disais, Jérôme. C'est-à-dire que là, soudainement, il y a une simplicité, une fluidité, une musicalité de la phrase très simple. Vraiment, c'est magnifique comme langue, tout simplement. Alors qu'il est passé par toutes les étapes. La préciosité de ses premiers romans, les romans expérimentaux, la ponctuation postellinienne de femmes. Enfin, on a tout eu. Et Et là, finalement, il arrive à l'épure. C'est tellement beau.
C'est Agent Secret, c'est donc Philippe Sellers, et c'est au Mercure de France. Lequel Sellers publie également Légende, son roman chez Gallimard. Allez, quelques minutes, parce que vous avez été un peu long auparavant pour évoquer ces orages-là chez La Thèse de Sandrine Collette, à qui on doit des romans noirs, dont Des nœuds d'acier ou Et toujours les forêts. Et là, c'est justement dans une forêt la nuit que s'ouvre à la manière d'un conte horrifique son nouveau roman. Clémence, 30 ans, une jeune boulangère, est poursuivie par un ogre qui la terrorise, et cet ogre, c'est son compagnon Thomas, qui a réussi à force de violence à la couper de ses amis, de sa famille, de la vie. Elle quitte donc le domicile conjugal, son travail, elle s'enfuit, elle se réfugie dans une maison délabrée, entourée d'un jardin où même mutilée, on peut vivre. Je vous demande, mais rapidement, ce que vous en pensez, Arnaud ?
Écoutez, je suis tombé sur cette phrase, Gabriel n'est pas là, personne n'arrose et l'herbe est vide. Je me dis, comment ça, l'herbe est vide? Et c'est bizarre, elle était pleine hier encore. Donc on est,
c'est pas Gabriel, c'est le voisin de la maison.
Donc c'est pas du réalisme, hein, parce que les prénoms sont français, donc on pense que ça se passe en France, mais il y a aucune indication géographique. Comme il parle de pain au chocolat, on peut penser que ça se passe au nord de la Loire plutôt qu'au sud, où on dit plutôt chocolatine, mais sinon on n'a aucune indication. Et donc, c'est une histoire d'emprise, d'hommes toxiques, mais il n'y a aucun réalisme. Et du coup, c'est pas du surréalisme, c'est plutôt du sous-réalisme. Tout est flou, tout est imprécis, et notre lecture, elle est aussi floue et imprécise.
Quelques mots, Olivia ?
Bah, je ne sais pas très bien. Si c'est un livre sur la terreur, moi j'ai été terrorisée de la première à la dernière page, donc c'est réussi. Mais j'ai détesté, moi, c'est absolument tout ce que je déteste, ça me met dans un état épouvantable.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est ce qu'elle raconte est atroce. C'est vraiment l'histoire d'une emprise et d'un homme qui va réussir à voler à une femme tout ce qu'elle est, et une fois qu'elle est vide, qu'elle n'est plus rien, il lui explique qu'il est tout. Et donc c'est le processus de l'emprise. En ça, c'est réussi et c'est intelligent. Mais je ne vois pas le plaisir qu'on peut avoir à lire de telles horreurs.
Frédéric ?
Il y a une grosse pression quand on se lance en littérature en s'appelant Colette, hein. Il y a quand même une sacrée pression onomastique, je dirais.
Avec deux ailes, hein.
Oui, là, il y a deux ailes, mais quand même, et c'est dur, hein. Là, bon. Donc, l'ouverture est réussie, avec la, c'est d'ailleurs la même que le précédent, dans Et toujours les forêts, parce que je l'avais lu, il avait eu le prix de la closerie, donc j'avais lu. Et ça commençait par une femme qui court dans une forêt, là aussi. Non, c'est la spécialiste du polar rural, du suspense champêtre, du thriller bucolique.
Oh bah c'est pas très bucolique, c'est horrible. Jean-Louis, excusez-moi, c'est une femme qui est prise comme un gibier.
Même avec deux ailes, ça ne décolle pas. D'ailleurs, j'avoue avoir toujours un peu peur des romans qui commencent par cette phrase « Il fait nuit, point ». D'autant que là, franchement, le jour ne se lève jamais. Ça va se terminer par une nuit qui ressemble, 280 pages plus loin, à un hématome. Et avec ça finit par ces mots, Clémence s'en fout bien de la nuit. Alors c'était bien la peine de nous laisser espérer une issue un peu lumineuse, ou du moins à travers. Je remarque que l'héroïne est boulangère et que la boulangerie a fait beaucoup dans le malheur, dans les héroïnes malheureuses. A fourni beaucoup d'héroïnes malheureuses.
A fourni
la boulangerie. Les femmes des boulangers.
Tu penses à la femme du boulanger ?
Non, bien. Pas seulement, mais je sais pas. Y a ce côté,
je pense que vous avez dit l'essentiel. Ce sont ces orages-là, c'est chez La Thèse, et c'est signé Sandrine Collette avec deux L. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Olivia.
Le nouveau roman de Nancy Huston, Arbre de l'oubli, ça faisait quelques romans que Nancy Huston faisait des œuvres un peu expérimentales.
Oui, un peu théoriques, je dirais.
Théoriques, exactement.
Un peu cérébrales.
Là, elle retourne dans le romanesque, avec un portrait d'une jeune américaine métisse, dont on va découvrir l'arbre généalogique en même temps que les pressions de l'époque. Moi, je trouve que c'est aussi puissant que Lynn DeFay. J'adore comment elle écrit. Je trouve que c'est une grande styliste. En même temps, en vous disant ça, je m'en veux de ne pas avoir réussi à défendre plus Delphine de Vigan.
Mais tu l'as très bien défendue.
Mais Nancy Huston ne la met pas au programme parce que je pense que vous auriez le même regard condescendant.
Ah bon ? Faut pas.
C'est pas condescendant.
Je comptais le mettre dans une
J'adore ce livre. Il est d'une poésie. Et puis, c'est vraiment un livre en prise avec la violence de l'époque, le féminisme, les genres, le racisme. C'est un livre vraiment très, très beau. Ça s'appelle Arbre de l'oubli.
Et c'est chez l'Acte Sud. Le conseil d'Arnaud.
Alors, aux éditions de Minuit, de William Marx, Des étoiles nouvelles, quand la littérature découvre le monde. Alors, William Marx, c'est le, c'est celui qui tient la chaire de littérature comparée au Collège de France. Et donc là, c'est magnifique. C'est le cours qu'il a donné cette année, par ailleurs. Alors, en distanciel, mais là, on peut la voir physiquement avec le livre. C'est comment la littérature a été désemparée lorsqu'on a découvert le Nouveau Monde et donc aussi de nouvelles étoiles. Comment elle allait parler de cette nouvelle réalité? Quels mots elle allait trouver? Et donc, c'est formidable d'érudition, mais une érudition très large qui va de Homère à Hergé, de Shakespeare à Noir Désir, de, je sais pas, de Hérédia à Laurent Binet. Si on me demandait quelle est la définition de la culture, je dirais, mais lisez ce livre, vous saurez exactement ce que c'est que la culture, pas simplement littéraire d'ailleurs, et c'est juste, mais grandiose, c'est pas long, hein, c'est pas un pensum, et franchement, lisez ça pour...
Donc c'est chez Minuit, et c'est, le titre c'est?
C'est de nouvelles, des étoiles nouvelles, pardon, de William Marx, et donc le sous-titre c'est Quand la littérature découvre le monde, comment s'empare du nouveau monde.
Mon conseil, c'est un livre qui s'appelle Je préfère ne pas. C'est aux Dilettantes, un livre absolument merveilleux d'Alain Schiffre, placé évidemment sous l'égide de Bartleby, comme dirait Arnaud Vivian, où Alain Schiffre pratique l'évitisme, je dis bien l'évitisme, avec maestria, comprenez l'art de l'esquive et du contournement pour vous convaincre de le lire. Moi, je ne résiste pas au plaisir de vous citer la première phrase. « Je ne vous dirai pas l'âge que j'ai, mais mon dernier gâteau d'anniversaire ressemblait à une retraite au flambeau filmée par Leni Riefenstahl. » À la page 51, en plus, il dit éprouver beaucoup de plaisir à écouter la radio, mais le son coupé. Ce qui rend évidemment mon éloge de ce soir encore plus sincère, c'est « Je préfère ne pas », c'est aux Dilettantes, et c'est signé Alain Schiffre. Le conseil de Jean-Louis.
Eh bien, dans la collection Omnibus aux Presses de la Cité, une anthologie consacrée à Joseph Conrad, le grand écrivain maritime, qui s'appelle Le romancier de la mer.
Je vois que Chasse-Marée revient au galop.
Oui, non, mais ça, c'est vraiment un auteur immense, quoi, qui est tellement mystérieux, et tellement singulier. Bon, comment peut-on écrire des chefs-d'œuvre dans une langue qui est sa troisième langue, quoi? Il est né polonais, culture française, parlant admirablement le français, mais refusant d'écrire dans cette langue et choisissant l'anglais. Il se met à apprendre l'anglais de manière très empirique. Il a déjà 17 ans, 18 ans. Et en plus,
il est trop tard, Jean-Louis, pour nous raconter toute la vie de Conrad.
Ah oui, non, on va
l'émission se termine. Hein.
D'accord. Donc, c'est une anthologie magnifique où il y a ces grands textes maritimes, Lord Jim, les frères de la côte, le miroir de la mer.
Omnibus, hein.
Omnibus, voilà.
Le conseil de Frédéric.
Eh bien, moi, c'est un peu comme Arnaud, j'ai aimé un livre sur la littérature d'Henri Raksimov.
Ah, je l'ai lu, oui.
Ulysse ou Colomb, note sur l'amour de la littérature, aux éditions du Canoë. Ah, oui. En gros, il explique qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a Ulysse, donc qui sait à peu près où il va retourner à la fin. Et puis Christophe Colomb, lui, qui sait pas où il va, mais il découvre l'Amérique. Et il faut choisir. Et lui, Henri Raksimov, toute sa vie, a choisi plutôt Colomb. C'est-à-dire qu'il savait pas trop où il allait. Et c'est une digression brillantissime sur Flaubert, Rimbaud, Kafka, Dickens. Il y a comme tu disais sur William Marx, quoi. C'est-à-dire, si on devait demander qu'est-ce que c'est que la littérature, je dirais je conseillerais vraiment ce petit livre, Ulysse ou Colomb, d'Henri Raksimov, qui ne cesse dans le livre de répéter qu'il n'a pas réussi à être un grand écrivain. Ouais. Je voudrais dire ici ces mots. Henri Raksimov est un grand écrivain.
Tu redonnes l'éditeur, s'il te plaît.
Édition du Canoë.
Canoë. Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Arnaud, Vivian, Frédéric Becbédé, Jean-Louis Hésine, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, à la technique, au théâtre de l'Alliance française, il y avait... Et je les remercie Valérie Lavalard ainsi que Sébastien Royer pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.